Alors, aujourd'hui, on est en cours de MC.
Là, vous m'entendez ou pas, là?
Donc, c'est parti.
Et pourquoi ce sujet est particulièrement...
Du coup, c'est un podcast.
C'est vraiment une émission de radio.
Voilà, dans le retour micro, ça rend bien.
Alors là, on coupera ce blanc au montage. On démarre.
La classe de 607 du lycée Berthelot à Toulouse vous présente leurs enquêtes autour de la notion d'adelphité. Un travail accompagné par Emmanuel Degnaud et la radio Canal Sud.
Nous voilà avec les 607 pour le cinquième round autour de l'adelphité. Avec autour de la table Anatole... Henri, Isis et Romain pour ils sont tous crispés, ils me font rire. Et Romain pour nous parler de sujets assez différents les uns des autres finalement, puisque certains vont nous parler du sport et les autres de scoutisme, même si évidemment ça concerne on peut dire quand même l'expression physique de la jeunesse. Et donc ils vont nous parler de qu'est-ce que ça peut être l'adelphité donc dans le sport et dans le scoutisme. On commence par Romain et Isis.
Allez, tout d'abord merci et bonjour à tous et à toutes. Alors nous on va vous présenter le scoutisme, plus généralement l'adelphité, du grec adelphos, qui signifie le lien fraternel et universel choisi. Et notre problématique, c'est est-ce que l'adelphité peut vraiment traverser les frontières à travers une association qu'on a choisie de scouts? Et si votre meilleur ami vivait à 3000 km de vous, parlait une autre langue et que vous ne le saviez pas encore? C'est exactement ce que vivent des milliers de scouts chaque année. Pas de réseau social, pas d'algorithme, juste un feu de camp, une promesse et une main tendue. Alors, le scoutisme a des origines assez anciennes. Il a été fondé en 1907 par Baden-Powell, un officier britannique. Et il a écrit un livre qui s'appelle Scouting for Boys, qui est un peu comme la Bible des scouts. Alors, le but du scoutisme, c'est la vie en camp et la création de liens forts entre des individus d'origines différentes. La promesse scout, c'est un engagement choisi. Dans le livre, il est dit « Par-dessus les frontières, il tient la main ». Et on va vous présenter l'exemple d'un voyage en Roumanie de l'association de Toulouse. Et la Roumanie, c'est particulièrement intéressant parce que le scoutisme y a été interdit sous CESO et il a été refondé après 1989. Preuve que liberté et fraternité sont indissociables. Voilà. Je laisse la parole à Isis.
L'association que nous avons choisi de contacter, c'est les Éclaireurs et Éclaireuses de France, ou EEDF. C'est un mouvement de scoutisme laïque qui existe depuis plus d'un siècle. Leur objectif est de permettre aux jeunes de vivre une expérience scout laïque. Donc l'expérience scout, c'est d'être autonome, solidaire et engagé dans un groupe. Donc le groupe Saint-Exupéry, dont l'association... avec laquelle nous avons fait ces recherches, merci, accueille des jeunes de différents âges à partir de 6 ans et organise tout au long de l'année des week-ends, des camps et des actions autour de la nature. Pendant nos 3 semaines en Roumanie, nous avons pu vivre concrètement l'adelphité. Donc l'adelphité, c'est le lien de fraternité et de sororité qui inclut tout le monde sans distinction. Donc en Roumanie, nous avons rencontré des Roms ainsi que des Roumains de 4 à 17 ans et organisé des activités avec eux durant une semaine avec l'association Gypsy Eyes. C'est une association locale qui nous a logés et permis cette expérience. Il y a donc aussi le lien d'adelphité entre les Roms et les Roumains qui n'est pas encore totalement acquis en Roumanie. On a pu s'en rendre compte là-bas. Donc cette semaine nous a permis de faire des belles rencontres, de créer des souvenirs inoubliables et de découvrir le pays avec les habitants locaux.
Je vais laisser tes camarades vous poser des questions, mais du coup, tu dis nous.
Quand je dis nous, c'est moi et les... mon groupe d'éclaireurs. Parce que moi, je suis partie en Roumanie, du coup. Mais Romain, il n'a pas pu, mais je lui en ai parlé.
D'accord. Donc, en fait, c'est... vous êtes intéressé à ce sujet parce que toi-même, du coup, tu y participes.
Oui.
D'accord. Ok. Et toi, Romain, tu as déjà vécu une expérience scout?
Pas encore, mais cet été, j'aurai la chance de partir faire un voyage humanitaire à Alicante, en Espagne. Et j'aurai la chance d'aider des populations locales à travers diverses activités comme la construction de bâtiments, et voilà.
Et par un biais de par le scoutisme ou c'est autre
non,
chose?
Non, c'est une autre association qui s'appelle... j'ai plus le nom, mais c'est un groupe universel qui s'occupe de faire des voyages un peu dans le lien du scoutisme, mais sans qu'il y ait une association qui soit à la base.
D'accord.
Donc ça va être avec des, ça va être avec des gens personnes qui viennent du monde entier.
C'est les chantiers, quoi.
Exactement, un chantier international, exactement. Mmh. Il y aura des Turcs, des Chinois, des Européens, des Américains.
Super.
Voilà.
Okay. Vous avez des questions à leur poser?
Ouais.
Bah, allez-y.
Donc, moi aussi, j'ai fait du scoutisme et je voulais savoir si la Delphité, elle était réellement vécue par tous les scouts et que c'était pas juste un idéal qui nous est affiché. Donc, voilà.
Bah, ce que je peux te répondre, c'est les deux à la fois. C'est tout d'abord une promesse, un idéal affiché, mais tout ce qu'on y fait, comme par exemple le voyage en Roumanie, c'est ce qui rend cette promesse concrète et vécue, tout d'abord. Ce n'est pas qu'un discours, mais aussi une expérience.
Voilà. Okay.
Toi, Isis, qui a vécu cette expérience, qu'est-ce que tu penses de cette question de Henri? Et peut-être Henri, avant que Isis nous réponde, ça pourrait être intéressant que tu nous dises ce que toi t'en as pensé, parce que visiblement ça t'a pas forcément complètement convaincu.
Non, mais je suis assez.
Parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro.
Je suis assez d'accord avec cette idée-là, mais je sais que dans un groupe, que ce soit au scout ou même dans un groupe sportif, pour nous, on n'est pas tout le temps forcément en adelphité, parce que moi j'ai vu quelques cas d'exclusion des boucs émissaires qui étaient un peu mis à l'écart. Et bon, moi je suis au scout de France. Donc c'est pas mixte, forcément. Donc on fait souvent des trucs entre garçons. Donc déjà, la Delphité, bah, c'est... Enfin, il y a des valeurs humanistes, il y a des valeurs de fraternité, ça c'est sûr, et de sororité pour ce qui est des caravelles. Mais la Delphité, il y en a un peu moins. C'est pour ça que je me posais la question de savoir si c'était pareil pour toi ou pas.
Ben, donc déjà, il y a aux éclaireurs, il y a le plus la Delphité parce qu'il y a... Enfin, c'était des groupes mixtes. Donc, bah déjà, il y a ça. Et ensuite, c'est vrai qu'on discute beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de temps de parole pour parler de ce qu'on ressent. C'est un peu, on dirait un groupe de... Comme si on était chez le psychologue, un peu. Donc,
thérapie collective.
Exactement. Et donc, c'est... En fait, ça crée des liens forts. Et justement, ça permet de pas être gêné... et de parler de ce qu'on ressent, et ça évite ce genre de situation. Mais forcément, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, mais on essaie d'éviter au maximum.
Pour rebondir sur Isis, j'aimerais ajouter que les éclaireurs sont une organisation non religieuse, ce qui fait que la Delphité est un peu plus présente que les scouts classiques, car la notion de religion n'est pas une barrière, mais un moyen de pouvoir échanger entre athées, croyants.
Bah, pour rebondir sur Romain, du coup.
Mais ça tombe bien parce qu'on est là exactement pour ça. Donc rebondissons. Vas-y.
Ouais, ça, au scout aussi, même s'il y a ce truc de la religion et tout, moi je sais que je suis pas croyant et il y a absolument pas de problème avec ça. Chacun a sa foi, chacun la gère comme il veut. Il y a bien sûr des temps consacrés à la religion, mais c'est pas amené. On force pas à prier ou quoi. Et c'est amené vraiment, c'est chacun gère ça comme il veut. Et. Il y a même aussi des temps un peu de thérapie collective où chacun part de ce qu'il ressent, on se questionne beaucoup sur ça et c'est assez libre aussi, mais oui, il y a cet aspect religieux.
Mais j'ai une question, est-ce que c'est ok parce que toi t'es athée du coup, ou c'est il y a le même genre d'acceptation de tout le monde parce que selon les autres religions aussi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, j'ai pas trop compris là.
J'arrive pas à m'exprimer.
Si, t'arrives très bien, tu vas juste reformuler ta question tranquillement, mais elle était très bien ta question, vas-y.
Est-ce que au sein de ton groupe, il y a aussi des personnes qui ont des religions différentes les unes des autres, et il n'y a pas de souci avec ça?
Il n'y a pas de souci avec ça, non.
Ok, très bien.
Eh bien, moi, je me demandais, moi qui n'ai jamais été scout, si jamais il venait, au pire des cas, y avoir des conflits, voire des exclusions, comment les chefs arrivent à gérer ce genre de situation ?
Bah, c'est un peu la même chose. Il y a des temps de discussion. Et donc, on règle les problèmes vraiment en discutant et avec les chefs.
Oui, ou alors si c'est entre deux personnes.
Il faut revenir près de ton micro.
Ou si c'est entre deux personnes, ça les prend à part et ça.
Exactement.
Que c'est entre eux.
Il n'y a pas de punition exemplaire
Ça dépend des conflits.
Oui, d'accord.
Ça dépend de la hauteur du conflit, mais non, il n'y a pas de punition exemplaire.
Généralement, c'est un coup de bâton et c'est fini.
Non, c'est au cas par cas.
Romain nous a tout ruiné. Bon, alors du coup, est-ce que vous aviez d'autres questions, Anatole et Henri, à poser à vos camarades ? Peut-être sur leur lecture ou...
Sur leur lecture ?
Je sais pas, parce que vous avez...
Ah oui, j'ai une question, ouais. Je voulais savoir, vous avez débloqué comment les fonds pour partir en Roumanie ? Parce que ça doit être assez coûteux d'emmener des jeunes là-bas, j'imagine.
Ben ça, c'est le projet des aînés, on appelle ça comme ça dans le groupe. Le projet, on l'a fait sur 2 ans. On a fait des autofinancements sur les années scolaires, en dehors, dans notre temps libre, avec
des autofinancements. Des extra jobs, tu veux dire ?
Oui, un peu. Okay. Enfin, nous, on appelle ça comme ça, mais c'est parce que c'est pas vraiment des jobs, c'est des services qu'on va rendre à des particuliers.
C'est faire des
papiers
cadeaux.
Par exemple, ouais, des chantiers, oui, ou des trucs comme ça. Genre.
Mais c'est pareil dans mon groupe aussi.
Ok. Voilà.
Ok. Moi, j'ai une question quand même. Du coup, vous avez... Vous êtes servi, donc vous avez rencontré l'association, bon, tu l'avais rencontré toi, mais vous êtes servi du coup aussi de vos lectures. Vous aviez un article ou...
Bah,
Romain ?
Ma lecture, la lecture la plus emblématique, c'est quand même Scouting for Boys de Baden-Powell,
okay,
qui raconte l'origine et les fondements du mouvement scout. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas la version entière sur Internet, c'est beaucoup de petits morceaux sectionnés qu'il faut retrouver par-ci par-là, de petites citations, mais ça peut nous faire une idée en général.
D'accord. On va passer à vous deux, Anatole et Henri, pour que vous parliez un petit peu du coup de votre sujet autour du sport.
Donc pour faire ce travail, on a vu l'association de Anatole, son club de rugby. Je te laisse en parler plus en détail.
Bah, donc du coup, ça fait 8 ans que... Henri, lui, il a pratiqué le rugby à 15 et moi le rugby à 13. C'est deux disciplines plutôt différentes, mais c'est quand même le même sport. Il y a quelques règles qui changent, mais on a pratiqué du coup deux sports différents et on s'en est quand même rendu compte que la Delphité rassemble dans ce genre de sport. Et donc on est allé interroger mon club de rugby, donc Toulouse-Julien 13, en centre-ville. Et...
D'accord. Donc, toi, est-ce que justement dans ce club, tu as éprouvé fortement ou pas trop ou pas tant justement cette valeur de la solidarité, de la delphité, de la fraternité ?
Moi, le premier jour où je suis arrivé dans ce club, vraiment, on m'a accueilli les bras ouverts. On m'a vraiment incrusté dans le rugby. Ça m'a beaucoup ouvert à la discussion. À l'époque, j'étais beaucoup très timide. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie.
Ok. Et toi, Henri, tu as des pratiques sportives ?
Oui, du coup, j'ai pratiqué du rugby. Mais aujourd'hui, je fais plus de sport collectif. Mais j'ai mis ça en corrélation avec les scouts. Et c'est vrai que c'est deux choses qui m'ont vraiment beaucoup apporté dans la vie. Pour ce qui est de vraiment la delphité dans le sport, ça se ressent. Il y a... Vraiment, ce truc de partage, de on évolue avec les autres et on bosse avec eux, on n'est pas seul. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans le rugby. Après, moi, j'ai arrêté le sport pour d'autres raisons, mais ouais, c'est assez bien.
Et justement, comment ça se construit, ça, dans le rugby ? Quels sont les outils utilisés
pour... Déjà, on est une équipe. On doit bosser ensemble pour gagner des matchs ou faire des actions. Donc c'est sûr que se coordonner avec les autres et savoir parler, c'est primordial. Donc ça vient de là, ça vient du jeu aussi.
Mais est-ce que ça vous est enseigné d'une certaine manière ? Ou est-ce que, par exemple, il existe, comme dans ce que disait tout à l'heure Isis à propos des éclaireurs de France, ou que toi aussi tu reprenais, est-ce qu'il y a des temps prévus, d'échanges, de paroles entre les joueurs?
Ouais, ouais, bien sûr, mais il y a beaucoup ça. On discutait pas mal sur ce qui allait, ce qui allait pas, et les coachs nous parlaient beaucoup de marcher ensemble, de se parler. Et, oui, il y avait ce truc-là, ouais.
Surtout par rapport à d'autres sports, quand je peux écouter les gens parler de leur sport, au rugby, il y a vraiment un lien très fort avec l'entraîneur, et c'est comme si c'était un ami presque, alors que dans d'autres sports, les gens me racontent que leur coach, ils détestent, et limite, ils arrêtent leur sport, justement parce qu'ils aiment pas leur coach. Et c'est ça que j'aime beaucoup au rugby, c'est que je suis très proche de mes coachs, je peux être ouvert avec eux et leur raconter ma vie, il n'y aura pas de souci avec ça.
Tu veux dire qu'il y a quelque part une fraternité
même avec eux,
intergénérationnelle, ouais. Avec
eux. Il n'y a pas de hiérarchie.
D'accord. Ok. Et est-ce que vous avez le sentiment que des fois, cette adelphité sportive, elle peut aussi être coupée ou être... excluante vis-à-vis des autres?
Justement, j'avais une question un peu dans le même style. Est-ce que justement cette adelphité pourrait se limiter aux résultats ou aux performances?
Je pense pas, parce qu'une équipe ça brille dans la victoire comme ça se soutient dans la défaite. C'est pas tant. Après, bien sûr, je pense qu'il peut y avoir des reproches qui sont faits pour une action qui a mal été exécutée. Ah ouais, t'as fait ça, c'était pas bien et tout. Mais après, comme dans tout groupe, je pense. Il y a des gens qui sont un peu plus mis à l'écart et c'est pas exclusif, mais ça, c'est quand même, on est tous un peu inclus, je trouve. Mais oui, après, il y a des gens qui sont pas super bien inclus ou qui partent assez tôt parce que ça leur convient pas. Et voilà, mais sinon, non, la adelphité, elle est présente.
Après, ça peut aussi dépendre des clubs. Dans mon club, on est vraiment très liés. Mais des fois, parfois, quand je joue face à l'autre équipe, on peut voir qu'ils s'insultent entre eux pendant le match. Enfin, il n'y a pas une bonne ambiance d'équipe chez eux. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'éducation et de ce que le coach raconte aux joueurs tout au long de l'année. Et voilà.
Je pensais aussi...
Ah, vas-y, pardon. Est-ce que le fait de se sentir inclus dans l'équipe, ça augmente, ça aide avec le sport en lui-même?
Oui, forcément, quand on va jouer avec des gens qu'on aime, on aura envie d'aller à l'entraînement, on aura envie d'aller au match et de passer du temps avec ces gens-là. Et donc.
Et de se donner à 100%.
C'est ça.
Ok.
Bonne question. Et non, c'est vrai. Et justement, moi, c'était un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense par exemple au troisième mi-temps de rugby. Si moi, je vais dans un bar où il y a la troisième mi-temps de rugby. Je peux me sentir très exclu. Donc je me dis.
En tant que non-joueur de rugby.
Ouais, voilà. Alors je me pose la question, voilà, qu'est-ce qui est fait aussi, éventuellement, dans votre sport, et peut-être c'est peut-être d'ailleurs plus fait dans le rugby que dans d'autres sports, je ne sais pas, pour s'ouvrir sur le reste de la société. Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, des actions de solidarité que vous connaissez? Est-ce qu'il y a des choses pour aller vers les autres, quoi? Enfin voilà, je ne sais pas.
À l'extérieur de l'équipe.
Ouais.
Pas tant, on est vraiment.
Il y a un petit côté clan, non, quand même.
Il y a un petit côté clan dans l'équipe.
J'ai une question un peu dans le même style aussi. Est-ce que on peut vraiment appeler ça de la adelphité, du coup, vu que c'est une équipe masculine?
Il n'y a pas de mi. Ouais.
Oui. Et est-ce que vous organisez des matchs aussi avec une équipe féminine, ou est-ce qu'il y a des équipes féminines dans ton club?
Mais régulièrement, on fait des matchs pas à plaquer, du coup, mais à toucher avec des équipes féminines.
Ok.
Et même avant d'être arrivé en U13, donc 13 ans, c'est mixte, et c'est là que j'étais. C'est là que je suis arrivé, donc vraiment, il y avait pas mal d'adelphité à ce moment-là.
Ok. Et est-ce que tu trouves pas ça plus intéressant d'avoir des équipes mixtes? Enfin, est-ce que ça apporte des choses, ou finalement pas tant?
Il y a tellement une différence de niveau, malheureusement, mais parce que il est
du au... oui.
Oui, au physique, c'est pas possible.
Non, oui, c'était du au physique juste.
Donc en vrai, c'est dommage que tout le monde puisse pas jouer ensemble, mais c'est pas possible techniquement au bout d'un moment, quoi.
Après, au niveau pro, voilà, je pense que c'est pas
attends,
possible.
Pardon, micro.
Au niveau pro, c'est pas possible, mais après, oui, quand c'est amateur, bien sûr que oui, on peut faire des matchs mixtes. Des matchs mixtes. Voilà.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser?
Moi, j'aurais une question. Est-ce que justement ces liens d'adelphité du club, ils sont durables en dehors du terrain et dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es en contact
pour
avec des amis du rugby?
Je vais régulièrement voir mes amis en dehors du rugby. Après, c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Il faut avoir un lien quand même fort avec eux. Et ça dépend des équipes, vraiment.
D'accord. Et Est-ce qu'il y a des... Bah, tout à l'heure, on avait dit les limites par rapport aux résultats, aux performances, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement des espèces de clans avec des clubs, des villes, ou même au niveau national? Justement, une
des limites entre clubs.
Une haine qui se crée envers d'autres nations par rapport à des finales, à des matchs
Bah, moi-même, là, ce week-end, je vais jouer un match d'Occitanie. Et donc, qui unit plusieurs clans, enfin plusieurs équipes. Et donc, on va être. Enfin, on est ensemble et ça se passe très bien. On n'est pas chacun de notre côté. Enfin, sur le terrain, on l'est, mais dès que le match est fini, on va se voir, se parler. Et on se connaît tous, c'est marrant.
C'est comme l'Ukraine, je crois, c'est bon enfant. C'est pas...
Et c'est pareil au niveau, au niveau national, c'est pareil.
Au niveau national, je pourrais pas vraiment le dire, mais je pense que quand même.
Enfin, c'est un sport avec une mentalité, une bonne mentalité. Enfin, une mentalité, comment on pourrait dire ça, saine, avec justement une rivalité saine plutôt que...
Oui, oui bah, bien sûr, mais c'est avec comme le crunch qui oppose la France et l'Angleterre. Voilà, ça s'envoie des pics, mais enfin, il n'y a pas une haine profonde ou quoi. C'est vraiment un sport dans le respect. Et, voilà, sur le terrain, ça joue, mais après, ça se serre la main, il n'y a pas de problème là-dessus.
Eh bien, merci. En tout cas, c'est vrai que c'est une question toujours qui se pose, à savoir, quand on est solidaire dans un groupe, comment ça se passe entre ce groupe et le reste de la société ou les autres groupes. C'est vrai que cette question de la Delphité, elle est intéressante. Vous vouliez rajouter d'autres choses?
Non, ça va.
Non? Eh bien, on va s'arrêter là, c'est super. Merci beaucoup.
Bah, parfait, merci beaucoup à vous.
Et on va passer au groupe suivant. Voici avec les 607 du lycée Berthelot pour le dernier groupe pour nous parler cette année d'Adelphité, d'exploration autour de l'Adelphité. Et là, on a trois groupes qui se sont intéressés à la question de l'éducation et comment il peut y avoir ou pas de l'Adelphité dans le milieu scolaire et dans l'éducation en général. Alors, on a beaucoup de... que des garçons autour de la table. Donc, on a Hector, on a Arthur, on a Raphaël, on a Mathis, Damien, Elliot, Théo et Thomas. Et on va commencer par Arthur et Hector, qui vont nous parler de la question des classes sociales dans l'éducation, c'est ça?
Oui, c'est ça. Notre sujet, principalement, c'est donc les classes sociales dans notre société et principalement dans l'éducation, et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les liens d'adelphité qui peuvent être créés. Nous, on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, cette idée de classe sociale et de quel impact ça peut avoir sur notre société.
Durant notre recherche, on a pu observer que les différences de classe sociale et les liens d'adelphité ont évolué depuis un certain nombre d'années.
Alors, c'était l'équipe de Mathis, Damien. Vous avez peut-être des questions déjà à poser à vos camarades.
Moi, j'ai une question, c'est que vous avez dit qu'elle a évolué. Sauf que, est-ce que vous pouvez nous dire si elle a évolué positivement ou négativement durant les 20 dernières années, par exemple?
Alors, déjà, pendant, en parlant d'une période plus longue, c'est sûr que ça s'est beaucoup amélioré. Durant les 20 dernières années, c'est quelque chose, je pense qu'il y a eu des améliorations, mais pas que. C'est-à-dire que elles sont aussi, les classes sociales se sont aussi beaucoup scindées, avec plus de pauvreté et des ultra-riches qui détiennent encore plus de richesses. Et on a aussi les actions des associations pour justement développer des liens entre différentes classes sociales. On a parlé justement à Lafèvre qui effectue du mentorat pour aider les classes défavorisées dans l'éducation, qui parle justement des associations dans ce thème-là qui doivent fermer leurs portes à cause de départ de bénévoles et leur association, la FEV, a perdu aussi beaucoup de bénévoles.
Et de moyens, du manque de moyens.
Et de moyens aussi, beaucoup de moyens perdus pour les services publics en général.
Ok.
On a pu observer avec l'article « Les inégalités sociales de l'école primaire à la fin du collège » de l'Observatoire des inégalités que l'accès au savoir et leur transmission dans l'éducation s'est amélioré depuis un certain nombre d'années. Mais on retrouve quand même chez les classes plutôt de la primaire une difficulté, par exemple, à écrire, à lire ou à compter sur les enfants issus de milieux défavorisés. Et du coup, une aisance pour ceux qui viennent des classes favorisées. Aussi, on peut noter que 40% des couples sont formés de personnes de même classe sociale. Et donc, y a une séparation, mais également une... Enfin, il y a un phénomène, on va dire, que qui
de rassemblement des classes entre elles, c'est ça,
oui, enfin, c'est
de ségrégation.
Oui, c'est ça. Et ce phénomène, il s'appelle l'homogamie. Et donc, les couples de même classe sociale, les personnes de même classe sociale, elles se mettent en couple avec des autres personnes de même classe sociale. Et donc, on peut noter que ce phénomène, il est stable depuis 20 ans. Mais donc, il pousse à s'interroger. Donc, qu'est-ce que ça va devenir dans les futures années? La mixité sociale est plus favorisée dans notre époque actuelle.
Et du coup, est-ce que le fait d'être d'une même classe sociale favorise la delphité?
Alors ça, oui, du coup, ça favorise grandement. On a pu voir ça aussi dans des œuvres artistiques comme Germinal, Germinal de Zola. On voit vraiment cette idée que au sein d'une même classe sociale, on a vraiment des liens qui peuvent se créer facilement, des liens forts. C'est cette proximité, on peut l'expliquer par plusieurs choses. Cette idée de ségrégation entre classes sociales, on se retrouve avec des classes sociales qui vivent les mêmes choses, qui ont les mêmes préoccupations et qui donc peuvent créer des liens plus facilement. On a aussi cette idée d'égalité au sein d'une même classe sociale qui aide à créer des liens car tout le monde dans cette même classe a à peu près les mêmes revenus.
Également, on pourrait dire à l'inverse que possible d'avoir des liens d'adelphité entre différentes classes sociales. Par exemple, le film Intouchable est un très bon exemple. Donc, le film Intouchable, ça raconte l'histoire d'un tétraplégique issu un tétraplégique bourgeois qui rencontre qui va engager un jeune de banlieue nommé Idriss. Et donc, ils vont avoir une relation d'amitié, de respect. Et donc ça va se transformer en une véritable histoire qui promue les liens d'adelphité entre les classes sociales. Et donc dans leur relation, ce n'est pas c'est une relation égalitaire où Driss et Philippe le tétraplégique, ils vont donner un peu chacun de leurs connaissances. Driss, il va apporter la bonne humour. L'humour et la bonne humeur et Philippe, il va apporter des connaissances.
Oui, les classes sociales, c'est pas une fin en soi pour totalement qui arrête totalement les liens, mais c'est sûr que ça peut les favoriser.
Oui, je m'étais un peu égaré au départ. Vous étiez vraiment sur la question, donc est-ce qu'on peut avoir la delphité entre classes sociales, en fait, c'est ça?
Avec les associations, on a aussi
travailler creuser, un peu sur l'éducation.
Oui, sur l'idée d'éducation.
Et alors du coup, est-ce que le retour que vous avez de la FEV, est-ce que c'est possible finalement? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Parce que par exemple, les bénévoles de la FEV, c'est des étudiants qui est-ce qu'ils peuvent être de toute classe sociale,
oui,
ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est des étudiants qui se sentent très très concernés par les difficultés éventuellement de leur classe sociale et qui ont envie de se tourner vers les plus jeunes pour eux.
Alors, elle nous a confié, celle qu'on a interrogée à la FEV, que ceux qui... Parce que eux, les actions qu'ils effectuent, c'est beaucoup de mentorat. Et c'est le mentorat, il est effectué par beaucoup de personnes et pas du tout que des classes défavorisées. C'est aussi beaucoup de classes aisées qui prennent à cœur les préoccupations de tout le monde, sans distinction de classe, et qui viennent aider avec grand plaisir des enfants de classes plus défavorisées. Et elle nous a dit aussi qu'il y avait des liens qui se créaient aussi, des liens très forts. Elle nous a parlé justement d'un moment où ils offraient des cadeaux entre eux. C'est des moments très forts qui peuvent se créer aussi grâce au fait que les classes soient différentes et avec des personnes qui amènent quelque chose des deux côtés.
Il nous a confié que donc leur action, c'est sur le principe du bénévolat. Donc toutes les classes sociales peuvent se sentir concernées dans la mission de transmettre des savoirs, d'aider. Et donc je pense que toutes les classes sociales peuvent avoir des sentiments d'empathie, et avoir une mission, une mission bonne, c'est de transmettre les savoirs.
Et est-ce que vous êtes interrogé à un moment donné sur cette transmission, justement, est-ce qu'elle peut être aussi, plus ou moins volontairement, un besoin de contrôler, finalement, est-ce que par exemple, des gens qui sont des classes supérieures et qui vont venir en aide, par exemple, sur faire de l'aide aux devoirs, etc., est-ce que ce n'est pas une forme de contrôle, pas forcément consciente, mais sur les classes sociales inférieures? Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen faire rentrer dans son propre mouvement, dans sa propre façon de vivre?
De ce qu'elle nous a dit, c'est vraiment une relation égalitaire. Donc il y avait une transmission des savoirs. Par exemple, si l'étudiant il était issu d'un milieu favorisé, il transmettait des savoirs, mais l'élève qui avait des difficultés, mais il transmettait aussi
ses propres réalités.
Et donc il y avait vraiment une...
Sa propre culture.
Oui, c'est ça.
Oui, c'était vraiment présenté comme une relation mutuelle, et je pense pas tant que ça soit volontairement de garder le contrôle, parce que c'est vraiment une action de bénévolat, et je pense que le but premier, ça reste vraiment d'aider les personnes, et c'est vraiment présenté comme quelque chose, une relation mutuelle où les deux s'apprennent des choses différentes. On nous a dit que certes, quand on arrive à ce bénévolat, on pense surtout à aider les gens, mais qu'au final, ça nous ouvre aussi l'esprit sur différents sujets qu'on ne rencontre pas normalement.
Et différentes réalités aussi.
D'accord. Parce que vous savez que, enfin, en fait, c'était un peu le sens de ma question aussi. Ouais. On parle aussi beaucoup de la charité de la bourgeoisie vis-à-vis des plus pauvres, par exemple. Et puis, il y a aussi cette histoire de conscience de classe sociale qui vient de Marx, c'est-à-dire qu'à la fois les classes ouvrières pourraient avoir une conscience sociale, mais la bourgeoisie aussi a une conscience sociale de défendre aussi son modèle de société qui est... Parce que le modèle de société qu'on a, c'est quand même la bourgeoisie qui l'imprime principalement. Donc voilà, c'était le sens de l'interrogation, mais on va peut-être s'arrêter là. Peut-être, est-ce que vous voulez rajouter, vous, d'autres choses?
Pas spécialement, mais c'est sûr que c'est aussi important, je pense, de continuer ces actions encore aujourd'hui, parce que comme on nous a dit, et comme on l'a dit plus tôt, ces actions, elles sont en déclin, et c'est très important pour maintenir des liens entre toutes les classes sociales et maintenir aussi une idée d'ascenseur social, parce que c'est en créant des liens entre différentes classes qu'on peut... justement casser ces barrières imposées par les classes et répartir égalitairement toutes les ressources, à mon avis.
On peut dire que dans la société d'aujourd'hui, qu'il y a un renforcement des liens d'adélfité et des liens humains entre les différentes classes sociales. Il y a aussi également une diminution de certaines barrières sociales. Donc il y a plus de ponts entre ces différentes classes sociales. Cependant, il y a toujours une persistance et un renforcement de certaines réalités, donc, d'une séparation au niveau du salaire ou du logement.
D'accord. Merci. Vous aviez des questions en plus, c'est bon. On va passer à votre groupe. En plus, c'est pas mal, vous avez travaillé sur Les Misérables et Charles Dickens. Donc finalement, ça rejoint complètement leur sujet. Mais vous, c'était plus pour donc parler d'éducation. C'est là où j'avais fait mon erreur. Vous étiez plus sur la question de l'éducation. Et du coup, peut-être sur la question des différences... de conditions sociales pour accéder à l'éducation, c'était ça un peu votre sujet. Qui c'est qui nous en parle en premier là, entre vous trois?
C'est moi.
C'est Mathis qui se lance. Allez.
Oui, alors nous avons choisi ce sujet pour plusieurs raisons. Tout d'abord car cela nous touche, car les enfants sont des adultes en devenir et que c'est donc l'avenir de l'humanité. Il faut donc les protéger, mais aussi tout le monde devrait pouvoir avoir accès à l'éducation, quel que soit le milieu social, peu importe le milieu duquel vient l'enfant, il doit pouvoir avoir accès à l'éducation et au savoir. Ensuite, car en France, c'est un fait, l'éducation n'est pas la même pour les enfants en fonction du milieu social duquel ils viennent. Le foyer dans lequel ils ont grandi, les professions de leurs parents, ainsi que le bien financier. Ce sont surtout les enfants issus de milieux défavorisés qui peinent à avoir le plus accès au savoir et à la connaissance, notamment au niveau des études supérieures. Ces deux raisons nous ont fait comprendre qu'il y a une forte discrimination liée aux classes sociales en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants, en particulier pour l'éducation des enfants défavorisés. Ils nous ont poussé à nous interroger si l'adelphité en France s'applique-t-elle en faveur du bien-être et de l'accès à l'éducation des enfants.
Nous avons vu que, en effet, ça s'applique en faveur de bien-être et de l'accès à l'éducation des enfants, car ça fait depuis maintenant de nombreux siècles qu'il y a des actions qui sont mises en place et qui ont été en premier lieu lancé par de nombreux ouvrages littéraires. Donc vous aviez parlé des Misérables, et ce qui est vrai parce que c'est un livre qui a permis de faire changer les mentalités, parce que ça montrait vraiment à quel point une misère sociale était souvent suivie d'une misère éducative, et que c'était du coup la fraternité qui permettait d'aider les enfants qui sont dans cette situation. Par exemple, dans Les Misérables, c'est entre Cosette et Jean Valjean, où il y a une vraie fraternité qui se crée entre deux personnes de milieux totalement différents, mais qui vont quand même permettre l'amélioration des conditions de vie de l'enfant, du coup, qui était défavorisé au début. Donc il y a eu aussi d'autres ouvrages qui ont permis de changer les choses, comme Émile ou De l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, qui lui a été plus percutant parce qu'il a vraiment permis d'opérer des changements, surtout dans l'accès à l'éducation, qui était encore très restreint au moment où il a été écrit au XVIIIe siècle. Et avec une vision plus contemporaine, il y a aussi de nombreuses associations et organisations qui permettent de garder ce mouvement et de toujours mettre en lumière qu'il y a de fortes inégalités. Avec par exemple l'UNESCO qui produit chaque année de nombreux chiffres qui permettent d'alarmer sur les inégalités qu'il y a pour l'accès à l'éducation en fonction du niveau. Et surtout avec l'UNICEF qui lui œuvre vraiment sur le terrain avec fraternité du coup, pour essayer de sortir les enfants de la misère et leur permettre d'avoir accès à l'éducation et du coup à un meilleur futur. Et pour donner quelques chiffres, depuis 2020, l'UNICEF, ils ont permis à plus de 25 millions d'enfants non scolarisés d'accéder à l'éducation en présentiel et à 30 millions d'enfants de continuer à apprendre via des plateformes numériques. Et en plus, ils ont permis à près de 60 millions d'enfants de disposer d'outils pédagogiques adaptés à leurs besoins. Donc on comprend vraiment que ça fait depuis de nombreux siècles que la fraternité, elle est mise à disposition de l'éducation et du bien-être des enfants.
Des questions, peut-être ?
Oui, peut-être une petite question. C'est au niveau de... vous nous avez parlé d'œuvres comme Les Misérables. C'est à quel point c'est encore d'actualité aujourd'hui sur ces questions de classe ?
C'est d'actualité aujourd'hui, car il y a toujours des endroits où les enfants qui sont du coup dans les bas de l'échelle sociale n'ont pas accès à l'éducation parce que comme dans Les Misérables, ils doivent travailler ou alors ils n'en ont pas les moyens. Donc c'est toujours d'actualité car ça, même si c'est assez ancien, ça éprouve toujours une vérité, c'est que l'éducation n'est pas assez accessible et que du coup ça crée des fortes inégalités qui ne sont pas encore totalement résolues.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'accès à l'éducation, d'après vous ?
Ce qu'il y a, il y a de nombreuses choses. Il peut y avoir déjà les coûts, car étant donné qu'il y a de plus en plus de... Il y a une grande augmentation démographique, il faut aussi créer de nombreuses écoles, il faut créer de nouvelles infrastructures, donc cela a un coût. Il y a aussi le fait que, en fonction de l'isolement, que ce soit social ou géographique des personnes, cet accès est difficile, car il est toujours plus facile d'accéder à l'éducation en grande ville qu'en campagne. Il est toujours plus facile d'avoir une bonne éducation quand on est aisé que quand on est pauvre. Donc il y a de nombreux facteurs, mais le premier, c'est qu'il n'y a pas assez d'aide pour les personnes du coup, et les enfants surtout qui sont défavorisés dès la naissance.
Comme on peut le dire Hector et Arthur précédemment, la Delphité a permis de faire changer les mentalités depuis quelques décennies, de faire changer les choses avec notamment donc, des actions directes sur le terrain comme la FEV avec le mentorat, mais elle n'a pas pu réduire toutes les discriminations et inégalités qu'il y a entre les différentes classes sociales, notamment du coup, au niveau de l'accès à l'éducation. Parce qu'en fait, comme beaucoup pourraient le croire, l'éducation, le problème n'est pas le niveau de l'éducation, mais les inégalités scolaires croissantes, puisque c'est l'école qui creuse notamment ces inégalités, comme Damien l'a dit, avec l'accès aux écoles, notamment dans les milieux périurbains comparés à la ville. De plus, là où certains auteurs d'un article de l'Observatoire de l'égalité, des inégalités, l'école pourrait permettre de réduire les inégalités et donc d'améliorer le bien-être des enfants. La vérité est qu'en France, en 2024 notamment, l'école ne corrige pas ses écarts, mais les accentue dès le primaire. Cela signifie que même si des actions ont été mises en place pour transformer l'école en un lieu qui permet d'améliorer notamment le bien-être des enfants, ben, ça n'a pas suffi. Et que ces actions-là, cherchant à accentuer l'accès à l'éducation, même aux enfants, n'a pas marché. Notre article de l'Observatoire des inégalités dit que 73% des enfants de cadre accèdent au supérieur contre 41% pour des enfants ouvriers, ce qui montre clairement cette inégalité-là, que le coût et les revenus influent énormément sur l'accès au supérieur, donc au savoir et à la connaissance.
Vous avez des questions ? Alors, moi j'aurais une petite question avant, juste parce que je suis curieux. Je suis curieux de savoir si votre sujet se base essentiellement sur le territoire français, où il est peut-être... revendiqué plus dans plusieurs endroits, par exemple en Europe ou même dans le monde.
Il est vrai qu'on a pris pour la plupart des chiffres venant du territoire français, car c'est ce qui est autour de nous et ce qui nous touche plus particulièrement. Mais c'est vrai que ceci se répercute partout dans le monde, peut-être même plus fort dans des pays qui sont plus défavorisés, avec des moyens moindres et des conditions de vie plus difficiles. Cependant, le constat reste le même, c'est que si tu es aisé, tu as plus de chances d'avoir une bonne éducation que si tu es défavorisé. Donc en soi, notre sujet est global, mais s'appuie sur des chiffres qui sont plus français.
Théo, tu as posé une question ?
Ou réagir ?
Non, pas particulièrement, parce que notre sujet, nous, il ressemble beaucoup à l'heure, mais il est différent.
Dans sa problématique ?
Ouais.
Vous avez terminé ou vous vouliez ajouter d'autres choses encore ?
Non, il me reste.
Ouais, vas-y. Vas-y.
Pour finir, pour continuer à réduire ces inégalités et améliorer le bien-être des enfants, ils font donc, en un premier lieu, continuer à montrer ce problème à travers le cinéma, par exemple, où en 2014 est sorti le film La cour de Babel de Julie Pertuccelli, qui informe donc sur les conditions d'inclusion des enfants provenant de l'immigration dans les classes en France. Ensuite, il ne faut pas éviter à contribuer à réduire ces mêmes inégalités en participant par exemple à des actions ou même en soutenant les associations qui œuvrent pour ce sujet.
Alors, vous venez de nous parler d'associations. Moi, j'aurais une petite question sur justement l'association que vous avez travaillé dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner une action concrète effectuée par votre association pour réduire l'inégalité de l'accès à cette éducation et pour améliorer le bien-être justement des enfants? Est-ce que vous voulez peut-être que je répète la question, messieurs?
Non, mais pas vraiment, c'est que on n'a pas eu de... on n'a pas réussi à contacter les associations, on a contacté deux associations, l'UNICEF, Haute-Garonne et dans le Gers, et aussi le réseau Enfants sans frontières, mais on n'a eu aucune réponse. Du coup, on s'est plus ou moins renseigné par des sites qui traitent donc, des actions de l'association, donc on a choisi l'UNICEF. Donc, par exemple, pour l'éducation en France, un programme a été mis en place par UNICEF, École Amis des Droits de l'Enfant, renforcé donc depuis 2024 et poursuivi en 2025. Ce programme, il aide à mieux respecter les droits des enfants, à lutter contre le harcèlement, à améliorer le bien-être des élèves et à favoriser leur participation dans la vie scolaire. Mais aussi, cette organisation a lancé la préparation de sa consultation nationale 2025-2026, qui permet donc aux enfants et adolescents dans le secondaire de s'exprimer sur leur bien psychologique, leur harcèlement et leurs conditions d'apprentissage. C'est principalement des... des conférences. Ils se retrouvent en face pour en discuter directement avec les élèves, pour leur donner la parole justement de s'exprimer sur cette problématique de l'accès à l'éducation, parce qu'ils sont les premiers touchés par ce problème-là.
Des consultations.
Oui, ça, des consultations.
Merci. On va poursuivre du coup avec Théo, Elliot et Thomas. Vous, du coup, vous avez aussi voulu parler d'éducation et de différences sociales dans l'éducation, mais peut-être en accent plus sur quoi ? Sur la recherche d'égalité dans l'éducation, c'est ça ?
Ouais. On s'est demandé comment la difficulté peut promouvoir l'éducation, enfin, viser ça.
D'accord. Et donc, du coup, vous avez utilisé quoi ? Vous avez rencontré une association, vous ?
On a essayé de contacter une association nommée LASEC, qui fait de l'aide pour l'aide à domicile pour aider... avec des devoirs, sur autre chose, et pour aider du coup que tout le monde ait le même accès à l'éducation. Sauf qu'en fait, on a essayé de contacter, mais ils n'ont pas répondu. Du coup, on a essayé, mais ils n'ont pas répondu. Du coup, on n'a pas pu les contacter, malheureusement. Mais nous, on s'est renseigné un peu par rapport aux chiffres qu'il y a autour du monde. Par exemple, c'est comme ça qu'on a su qu'en 2024, il y avait 250 millions d'enfants et d'adolescents pas scolarisés, et en fait aussi que le taux de scolarisation, il a baissé en France aussi, que par exemple, même si c'est des chiffres à prendre avec pincettes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur étude en supérieur, parce que c'est des chiffres qui sont à partir de 18 ans, on a vu par exemple qu'entre 1986 et 1995, il y avait 84,8% des personnes qui avaient 18 ans qui étaient en école. Et en 2023, on a vu qu'on était à 78,6%. Donc, il y a une baisse. Mais ça s'explique aussi par la situation économique, sur autre chose.
Et, quand même, effectivement, une sacrée alerte.
Oui, mais ce n'est pas un chiffre assez alarmant, parce que c'est à 18 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fini leur lycée et qui veulent peut-être arrêter et de faire des études pour se consacrer à d'autres choses.
D'accord. Sinon, vous avez Elliot dans tes lectures. Qu'est-ce que tu as retenu sur cette question de l'accès à l'éducation des moyens de solidarité qui sont mis en place pour que que l'éducation se développe et puisse appartenir à tous.
Eh bien, notre lecture principale, c'était Moi Malala. Je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est une autobiographie d'une jeune fille qui est devenue un symbole mondial de la lutte pour l'accès à l'éducation. Ou bien Malala, elle va raconter son histoire ou comment elle s'est battue
dans son pays, au Pakistan, pour défendre les droits des femmes contre les talibans. Car dans l'autobiographie, il raconte que les talibans bloquaient l'accès à l'éducation aux femmes de plus de 12 ans, c'est environ l'âge pour aller au collège, et donc les femmes sont simplement arrêtées juste à la fin de l'école primaire. C'est donc une histoire très touchante, hein, je vous la conseille, puisqu'elle est agréable à lire, elle fait remonter fort d'émotion. C'est une lecture qui nous a fait comprendre déjà que ce sont les filles qui sont souvent le plus touchées, ou bien dans certains pays elles n'ont pas le même droit que les garçons et doivent abandonner l'école très jeune.
Alors on avait une question au niveau des lieux d'apprentissage. C'est un peu dans ces lieux dans quelle mesure c'est des lieux qui permettent la création de liens d'adelphité.
Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît, monsieur Arthur?
Alors, c'est pour savoir si les lieux d'apprentissage, comme les écoles, etc., sont des lieux où se développent des liens de fraternité, de solidarité entre les différentes personnes qui apprennent à ces endroits. Est-ce que c'est un moyen aussi de croiser, parce que nous c'est notre sujet, les classes sociales, de croiser les classes sociales, de casser ces barrières?
Cela dépend parce qu'il y a des quartiers qui sont plutôt riches entre guillemets, qui sont plutôt des quartiers où aussi il y a des personnes qui sont défavorisées, et donc en fait ça crée pas tellement, puisque c'est par quartier, donc c'est des personnes, en fait il y a un quartier par exemple de personnes assez aisées et un quartier défavorisé, bah en fait ils vont justement rester chacun dans leur lycée, sans parler aussi des lycées qui sont les lycées privés, qui sont eux assez payants, même si on peut avoir des bourses.
Est-ce que l'école est un lieu qui permet de réduire les inégalités et de créer des liens plus diversifiés entre les personnes?
Je pense pas réellement, puisque oui, ça permet en quelque sorte de faire ça, sauf que il y a beaucoup de problématiques qui permettent que ça se fasse pas. Par exemple, le fait que les quartiers défavorisés sont accueillis dans leur lycée, et les quartiers qui sont aisés, eux, sont accueillis dans leur quartier, ce qui fait qu'il y a une séparation assez nette. Et aussi le fait que même si il y a des bourses, les lycées privés permettent en quelque sorte que les personnes qui ont plus de moyens que d'autres puissent se payer des lycées spéciaux.
Ok. Vous aviez d'autres choses que vous vouliez dire? Parce que moi j'ai une dernière question sinon à vous poser. Est-ce que il y a des choses que vous avez?
J'ai un documentaire qui est pas mal aussi par rapport à ça, même si c'est plutôt l'accès géographique à l'école, que c'est Le Chemin de l'École. Le Chemin de l'École, c'est un documentaire qui parle en fait des différents accès à l'école, et il est assez touchant parce que ça parle de différentes zones du globe, comment les gens vont à l'école, et on voit qu'en réalité on est plutôt privilégié par rapport à ces autres personnes.
Tu parles de la distance à l'école, c'est ça? Et le documentaire montre qu'en fait, pour certains enfants dans le monde, aller à l'école, c'est déjà une épreuve physique et une épreuve et un temps considérable, déjà rien que d'aller à l'école, c'est ça?
Oui. Donc je trouve que c'est assez difficile de critiquer l'accès à l'école, puisque ces personnes, par exemple, n'ont pas tout le temps le pouvoir économique pour envoyer leur enfant à l'école, ou même juste c'est trop une perte de temps ou d'énergie.
D'accord. Il y avait une question?
J'ai deux petites questions. Est-ce que... quelles mesures plutôt pourraient être prises pour garantir l'accès à l'école au plus grand nombre d'enfants en France et dans le monde?
Bien, si on se concentre sur la question du monde, il y a plusieurs solutions qui pourraient être envisagées. D'abord, il faudrait construire des établissements scolaires, plus ou moins dans les pays les pays pauvres, les pays en manque de financement pour se construire ces établissements, mais aussi mais aussi recruter de nouveaux enseignants, parce que c'est ça aussi souvent le problème principal des pays pauvres. Ils n'ont pas assez de bénévoles pour enseigner aux jeunes du pays. Mais aussi, on peut aussi lutter contre la pauvreté pour réduire ces inégalités dans les pays. Et aussi le développement à l'accès à l'Internet, qui reste quand même important de nos jours pour pouvoir avoir la réponse à nos questions assez rapidement et pouvoir étudier en dehors des établissements.
Je me permets d'intervenir parce que je pense personnellement que l'accès à l'éducation, c'est pas quelque chose de nécessaire dans le développement d'un pays, le plus nécessaire dans un pays, puisqu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça, à mon avis.
Ah oui ? C'est-à-dire, par exemple ?
Par exemple, pouvoir éviter des famines ou les sécheresses, ce genre de choses. C'est plus important éviter les gens que les gens meurent que la vraiment l'accès à l'école.
Et donc l'éducation ne contribuerait pas à éviter que les gens meurent ?
Moins que des sécheresses ou ce genre de choses.
Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que les sécheresses, pour pouvoir les éviter ou pour pouvoir s'en protéger, il faut quand même des gens compétents qui sont formés du coup par une éducation qui, si elle est en manque, n'existe pas et qui donc ne permet pas d'éviter ou de se protéger face à ces sécheresses. Du coup, en soi, s'il n'y a pas d'éducation, les sécheresses ne seront que plus dangereuses que s'il y a des personnes compétentes pouvant les prédire, s'en protéger et du coup protéger la population qui, à son tour, pourra être éduquée et du coup minimiser les risques que s'il n'y avait pas d'éducation.
Sauf que si on veut mettre un système en place scolaire, ça prendrait beaucoup de temps, plusieurs dizaines d'années, parce qu'il faut former des ingénieurs compétents et avoir matériel, ce genre de choses, quoi. Sinon, s'il n'y a pas le temps qu'on mette en place une éducation pour construire, je sais pas, des barrages, ce genre de choses, mais il faut des ingénieurs compétents, et ça prend des dizaines d'années à faire des ingénieurs compétents, et en plus, ça coûte très cher.
Donc, il ne faut pas le faire.
Non, il faut pas. C'est pas que je dis qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il y a des trucs plus prioritaires que ça.
D'accord. Oui.
Mais tu as parlé de barrage, non ?
Oui, par exemple.
Barrage, il faut bien que quelqu'un le construise.
Oui.
Si tu n'es pas compétent, ton barrage, il ne va pas tenir. Donc, tu vas juste engendrer des coûts, car ton barrage ne sera pas qualitatif. Donc, il va s'écrouler, il va devoir le refaire. Et puis même, le fait que tu dises qu'il ne faut pas... qu'il faut plus se préoccuper sur les sécheresses. Sauf que si les sécheresses, vu que tu n'as pas de personnes compétentes, elles font des dégâts. Ça va engendrer des coûts aussi, des coûts humains, mais aussi des coûts financiers, que tu aurais pu investir pour, du coup, réduire ces coûts-là. Donc en soi, le fait que tu écartes l'éducation va peut-être te coûter plus cher que si tu l'avais favorisé, te permettant donc d'éviter tous ces coûts.
À moins que tu importes les connaissances nécessaires pour les ingénieurs étrangers, c'est autre chose.
Arthur, tu veux dire un petit mot ?
Oui, c'est juste un petit mot. C'est peut-être que aussi, je pense que dans le développement d'un pays, il faut aussi penser à un développement durable et pas seulement à des solutions immédiates qui peuvent être fragiles. Et il faut aussi penser, donc vous avez parlé de 10 ans pour former des ingénieurs. À long terme, c'est pas une durée si grande, 10 ans, si ça permet au final d'apporter de la stabilité.
Dans 10 ans, tu peux avoir un exode d'une grande partie de la population.
Alors, je vous propose, parce que là, vous avez faim, et moi aussi, et on vient de se lancer dans un grand débat politique très intéressant, je vous propose de revenir à Canal Sud, si vous en avez envie, pour débattre. On peut, y a Germain qui est derrière, là, qui peut vous organiser un petit plateau, je pense, je suis sûr, il serait d'accord. Et moi, j'aimerais juste qu'on conclue sur une dernière petite question qui vous concerne tous sur votre sujet, classe sociale, éducation, là, dont on n'a pas finalement trop parlé, puisque quand même notre point commun, c'était la question de la Delphité. Est-ce que vous pensez que... on va parler de notre école ici, voire même notre lycée, tiens. Est-ce que vous pensez que on ne travaille pas assez cette question de la Delphité, de la solidarité, ou est-ce qu'on la travaille suffisamment d'ailleurs, pour que les élèves travaillent mieux? Et est-ce que vous pensez du coup que la coopération, la rencontre entre les élèves, le travail sur la rencontre entre les élèves, c'est favorable ou pas mieux comprendre ce qu'on a à faire, mieux comprendre ce qu'on vous propose de travailler, mieux apprendre en fait.
Je trouve que le sujet de la Delphité, du coup, on l'a vu en cours, mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment tant mis en avant dans les types de cours qu'on a. Je pense que ça serait important de mettre plus ça en avant avec plus de travail de groupe, des choses comme ça, parce que après dans une vie professionnelle, c'est aussi quelque chose pour laquelle on est moins je trouve préparé, c'est cette idée de travailler en groupe et de savoir se répartir les tâches, savoir bien travailler ensemble et être donc efficace comme ça, et au-delà de l'efficacité du travail, aussi pouvoir prendre du plaisir dans son travail et prendre du plaisir avec ses associés ou
les autres sur cette rencontre de l'autre à l'école et qui pourrait être un levier pour mieux apprendre.
Comme l'a dit Arthur, les groupes, ça peut être très important pour renforcer donc ces liens d'adélfité. Il peut aussi y avoir des intervenants qui viennent pour nous sensibiliser. Mais également, je pense qu'il y a un travail aussi personnel de chacun des personnes pour aller en avant et s'ouvrir vers les autres pour comprendre des différentes réalités, différents mondes, et essayer de se mettre à la place pour avoir plus de liens entre les individus et d'être plus solidaire dans le lycée.
Les autres, vous voulez rajouter quelque chose? On reste là-dessus?
Je suis d'accord avec eux, mais je pense pas que c'est très imposable.
Imposable? C'est-à-dire, ouais. que
c'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire que si on étudiait en cours, c'est pas, c'est difficile en fait d'imposer quelque chose aux gens qui ne veulent pas.
Je trouve pas que ça serait une idée d'imposer, mais de implicitement faire que justement les gens se rapprochent et travaillent pas de manière totalement implicite sur exactement la Delphité, mais en travaillant ensemble, développer des relations comme ça. Et développer une idée de vivre ensemble.
Et ben on va s'arrêter là. Et ben merci beaucoup. C'est une très bonne conclusion. Merci. Et ben c'est la fin de ce numéro annuel avec le lycée Berthelot. Bon bac et bonnes vacances. Merci.
Retrouvez le podcast de l'émission sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net.